Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Nous allons évidemment présenter l'émission 100% foot. Je suis en compagnie, comme d'habitude et comme évidemment de tout cœur, avec Patrick, et Alain nous a rejoint évidemment. Et nous allons terminer non pas cette saison, mais à débriefer cette journée de championnat. Et avant cela, on va commencer par nos équipes provençales, en l'occurrence les bonnes nouvelles de ce week-end, Aubagne Herbel, et ainsi que nos féminines. Voilà, donc assez rapidement, je vais commencer à parler de la 31e journée du National, très prochainement Ligue 3, donc dès la saison prochaine, sera nommé ainsi. Oui. Voilà, il y a eu une défaite, bon, évidemment, qui n'aurait rien en cause, car enfin le maintien est assuré, une défaite face à Rouen 3-1, une belle prestation d'Aubagne Herbel. Hein. Voilà, cette défaite ne remet rien en cause. Grâce à la confrontation de Châteauroux face à Fleury, qui a battu Châteauroux à domicile, ça nous permet évidemment de nous conforter dans cette position de maintien qui est assurée. Voilà pour cela. Un petit mot à dire sur... Tu n'as peut-être pas eu l'occasion de voir ce match.
Si, j'ai eu l'occasion. Parce que l'autre fois, je l'avais raté parce que c'était le vendredi soir, il y avait l'OM qui jouait.
Évidemment.
Voilà. Mais là, j'ai vu le match et j'ai vu hier sur BFM, ils font une émission sur Aubagne.
Oui.
Et j'ai vu le nouvel entraîneur, que je ne connaissais pas, et qui a l'air solide, qui a beaucoup bourlingué, donc qui a une certaine expérience.
Absolument.
Et bon, après, c'est une interview, il n'y a rien d'extraordinaire qui va faire que tu ne t'es pas tombé un peu en moison, mais ça a l'air solide. La défaite de Châteauroux chez lui fait que tu es sûr de te maintenir.
Absolument.
Donc, ça va permettre de travailler un peu, de tester les joueurs, parce que d'après ce que j'ai compris, tu as la moitié de l'effectif qui va changer au bagne.
C'est un travail de fond qui commence à s'effectuer. Voilà, beaucoup de jeunes qui risquent d'intégrer l'effectif.
Voilà, et tu as des joueurs qui étaient prêtés qui vont repartir, parce qu'ils étaient prêtés. Tu avais deux prêtés par l'OM d'ailleurs, puis il y en a une de Saint-Étienne, entre autres, et tout, Maïla, l'avant-centre. Et l'OM, il y avait Mbimbe et il y avait Daou.
A souligner que Maïla a été le buteur sur ce match 3-1 face à Rouen.
À Rouen, Rouen est une équipe de haut de tableau.
De très haut de tableau.
Qui a joué longtemps la montée. Ouais. Donc c'est bien, ça va permettre de travailler. Et puis il faut espérer que l'équipe se maintienne tranquillement, hein, parce qu'à 3 journées à la fin, tu es déjà maintenu.
C'est fait.
Voilà, tu as plus de 10 points d'avance sur le premier relégable. Donc,
D'ailleurs, Aubagne menait 1-0.
Oui. Après,
tu fais bien de le souligner, Alain.
Après, pour avoir vu le match, Rouen, tu vois qu'il y a les anciens joueurs de Ligue 2. Tu as du solide quand même.
Ouais.
C'est un peu... Aubagne, c'est une équipe courageuse, combative, c'est bien structuré. Mais c'est vrai que des fois, tu as des gars, tu vois que les mecs jouent en Ligue 2... Il arrive même dans certains clubs, il y a des mecs qui ont joué en Ligue 1, alors pas en titulaire, mais donc tu vois quand même la différence.
Et le jour de mon anniversaire, il joue contre Saint-Briochin.
Oui, Stade Briochin. Voilà,
le 1er mai, donc je leur souhaite que du bonheur, une victoire pour mon anniversaire.
Contre Saint-Brieuc, ils sont derniers, ils sont déjà relégués.
Ils sont informés de ton anniversaire.
Voilà,
même eux sont surpris du fait.
Tiens, c'est que je suis né le 1er mai, merci.
Voilà.
Qu'on les fasse jouer le 1er mai.
Ce qui explique son attrait pour les jours où on ne travaille pas.
Ouais.
Donc vendredi 1er mai. Ouais. Voilà, 1er mai à 19h30.
Bon, félicitations Aubagne pour le maintien.
Voilà, bravo. Voilà.
Ils pourront valider évidemment ce maintien, non pas faire la fête, mais en tout cas se retrouver et se souder pour la suite de la compétition.
Voilà.
Donc ensuite, bon, on va parler de la première ligue Arkema.
Oui.
Voilà, donc voilà. Heureusement, cette victoire à Lens 1-0, but de Brown, notre Jamaïcaine à la 52e mi-temps. Voilà. C'est quelque chose de super, le maintien est assuré de la même manière.
Je dirais que c'est incroyable, l'OM a gagné.
Oui.
En fait, une sauvée, dirait d'autres.
Mais c'est vrai que dans ce championnat des équipes, dans la deuxième moitié de tableau qui jouait, tu étais solide, tu te maintiens tranquillement, voilà, on dira pas, voilà. Après, quand tu regardes les matchs, parce que ça, moi aussi, là, j'en regarde quelques-uns, j'ai regardé d'ailleurs la demi-finale de Ligue des Champions féminines avec Lyon qui a perdu contre Arsenal,
ouais.
L'équipe anglaise 2-1. Voilà, c'est quand c'était dimanche. Hein.
Il y a un niveau différent.
C'est quand même un niveau. Tu te rends compte que le haut du tableau, les deux Parisiens, PFC mm-hmm. et PSG, et puis surtout Lyon.
D'ailleurs, il y a une finale de Coupe de France féminine qui attend justement oui. Lyon. Les Lyonnaises.
Voilà, et donc c'est quand même un sacré niveau, mais il mm-hmm. va falloir que se renforcer un peu. Tu as une équipe costaud, il va falloir mm-hmm. se renforcer. Une entraîneur qui n'est peut-être pas la plus joviale et la plus rigolarde, mais qui est sérieuse et qui bosse et qui a quand même un sacré CV. Et donc tu vas essayer de te construire, de t'implanter. L'année prochaine, l'objectif sera le milieu de tableau. Mm-hmm. Essayer de titiller un peu en coupe et compagnie. Mmh. Et après, si tu veux aller chercher les trois gros, c'est financièrement. C'est...
Et le prochain match de l'OM féminine, c'est contre Dijon.
Voilà,
le
Dijon.
6 mai, c'est pas mon anniversaire.
Ah, voilà, c'est pas ton anniversaire.
Ah, grosse opposition, mais
oui,
bon.
Dijon, c'est une grosse équipe. Hein.
Ils ont une sacrée moutarde.
Mais le truc, c'est que. C'est que comme tu sais que tu es maintenu, tu peux jouer oui. l'esprit libre, ça te permet de te lâcher.
Ouais, mais est-ce qu'elles sont fortes, les Dijonnaises voilà.
Nettement meilleures, il faut le souligner.
Il ne faut pas qu'elles s'énervent, que la moutarde leur monte au nez. Voilà.
Attention, nous, on a peut-être de la douceur olympienne.
Voilà. Mais c'est vrai que c'est... Tu as une équipe avec pas mal de jeunes qui n'est pas inintéressante et... C'est bien, il faut structurer tranquillement.
Ne cherchons pas à discréditer justement notre entraîneur.
Ah oui, oui.
Voilà.
Non,
Madame
c'est
Diacre.
C'est
ce qui a été le cas un peu ces derniers temps.
Oui,
elle va pouvoir travailler vu que Dijon sont sauvés. Bon, ça fait
oui,
un match
oui,
de
voilà.
Le,
mais le truc, travail. C'est que Diacre, elle a toujours eu, quand elle était entraîneur de l'équipe de France, elle s'est affrontée, ce qui n'était pas très malin peut-être,
oui.
mais avec le gang des Lyonnaises. Quoi. Et quand tu te mettais
comme
à
ça
dos.
Ça me souvient.
Alors ça a été le Sommer et Amandine Henry,
et Jean-Michel Aulas,
tu as toutes les voilà Jean-Michel Aulas le président qui était venu te mettre des scuds dans le dos, et tu as toutes les joueuses de l'effectif, Wendy Renard la capitaine en tête, qui sont allées au soutien des copines, donc tu t'es...
Oui.
Après tu es un entraîneur, tu fais des choix. Elle a eu un petit problème à l'OM, c'est elle a fait un choix sur une joueuse. Elle estime qu'une est meilleure que l'autre.
Mais pour moi, l'entraîneur a toujours raison.
Voilà, l'entraîneur, voilà. Elle fait ce qu'elle pense. Ah. Surtout que la fille qu'elle a mise est une jeune qui est intéressante. Donc,
voilà.
Ça passera avec un départ ou deux. Voilà,
en aparté, dans le vestiaire, ça va, ça se passe bien.
Oui.
Il n'y a pas de, top qui prend des photos, des vidéos.
Non, il n'y a pas.
Il faudrait peut-être souligner, évidemment, que le fait qu'après, nous le savons tous que... La défaite face à Montpellier au Vélodrome,
oui.
1-2, et le 2-0 bon, à domicile face à Nantes, mais ça c'était un peu cousu de fil blanc,
oui,
Nantes étant une
Nantes
meilleure,
étant,
nettement
c'est la,
meilleure équipe.
Son quatrième en championnat,
voilà.
C'est une grosse équipe.
On avait 5 victoires en 21 rencontres, ce qui faisait un peu rikiki, là. Alors
mais
le dernier match le 6 mai, on y croit.
Moi je l'avais dit après le match au Vélodrome contre Montpellier, je pense que... Pour avoir vu quelques matchs de l'équipe, c'est une équipe voilà, jeune et le Vélodrome, c'est quand il y a 40 000, c'est impressionnant. Ils ont peut-être mis trop de pression.
Oui.
Tu prends un but à la première minute.
Tu parles de la pression, mais ce serait intelligent de la part du nouveau président de l'Olympique de Marseille de les faire jouer en levée de rideau. Ça serait pas mal.
Mais le levée de rideau, il n'y en a plus maintenant. Parce que des problèmes de... Voilà.
Non, mais je ne sais pas quel problème. Mais bon, ça se faisait avant.
De pelouse.
Jeu à 13, je veux bien.
Oui.
Mais là, c'est du football. Pour donner un coup d'élan à cette équipe.
Ah,
et une promotion aussi.
Moi j'ai connu une époque, il y a très longtemps, où tu avais la réserve qui jouait avant l'équipe au premier.
Oui, non, mais ça serait un truc à faire pour elle.
Je m'en souviens. J'y ai assisté, en l'occurrence. Mais...
Après... Il y a peut-être des questions de droit, je ne sais pas. Bon,
oui, ou, de, ou des
autres.
Problèmes de pelouse, des problèmes de...
Il faut tenir compte du fait que le stade Vélodrome, on va continuer, on l'a toujours appelé ainsi. Et
on l'appellera toujours comme ça, le Vélodrome.
Oui.
Absolument. Ben, que le stade s'il est comble et qu'on continue à l'être la saison prochaine, je n'en suis pas sûr, mais c'est compliqué de faire justement cohabiter un match de levée de rideau qui va venir au stade, toutes les places sont prises, etc.
Ça non, aussi, pour la promotion des féminines, oui, ça serait bien. Voilà, oui, c'est ce que je veux
mais
dire.
C'est vrai qu'il doit y avoir une raison technique que je ne connais pas.
Il faudrait la
connaître.
Puisque
aucune équipe de Ligue 1 qui a une équipe féminine ne joue en levée de rideau. Aucune. Oui. Voilà. Et même Lyon, qui est quand même qui a été plusieurs fois championne d'Europe et tout, n'ont jamais joué à lever des rideaux de l'équipe masculine.
Mais qui utilisent le stade de l'équipe première masculine.
Voilà, mais avec des recettes beaucoup moins. Et c'est vrai que pour avoir vu le match contre Montpellier, moi je maintiens que les filles, elles avaient les pieds qui tremblent.
Ben oui.
Et je pense que ça fait, c'est impressionnant, le vélodrome avec le bruit et tout. Et voilà.
Mais moi, sur les antennes de fréquence du Mistral de Marseille, je fais une demande auprès du président de l'Olympique de Marseille, c'est tout. Voilà. Bon, après je sais que, il y a une chance sur 100, mais bon.
Oui, mais ça dépend peut-être pas de lui.
Et ça serait bien pour l'équipe, je pense.
Oui.
Juste un ou deux matchs pour les lancer.
Voilà, mais c'est vrai qu'on l'avait connu l'année dernière, hein, avec l'équipe masculine de Martigues, qui était en Ligue 2, qui a voulu au début, son stade était en travaux, jouer au Vélodrome. D'abord, il n'y avait pas grand monde et ça coûtait très cher à la location. Mmh. Mais je veux dire, c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué. Et donc, je pense qu'il y a des raisons, puisque si aucune ne joue. Mais effectivement, ça serait... Moi, je me rappelle l'époque où il y avait... Tu avais la réserve qui jouait, tu avais ou les U19 qu'on appelle les juniors, à l'époque on appelait ça les juniors, les gamins ça les faisait jouer parce qu'à la fin du match il y avait 50 000 personnes. Quoi.
Alors justement pour revenir à vos propos distincts, on va parler de l'équipe réserve à la nôtre.
Oui.
Avant cela, je veux juste vous confirmer, soyez présents au stade Turquan pour voir les féminines. Voilà, ça ne sera pas l'anniversaire d'Alain puisque ce sera le 6 mai. Voilà, et il y aura probablement une
célébration.
Attention,
je peux trouver un anniversaire fictif. Hein.
Ouais. Non, mais Alain, on compte sur toi. Tu es plein de surprises. Évidemment que voilà, soyez présents.
Une pensée pour le 5 mai, pour ce qui s'est passé à Bastia aussi.
Ouais, ouais. Hein?
Oui, bon, mais ça, évidemment.
Ben oui.
Samy.
Furiani.
Oui.
Elle n'a pas oublié.
Mais personne ne l'a oublié.
Non, mais je sais bien.
Voilà. Donc, du coup, on va faire un aparté National 3 rapidement. Pour parler. Tu nous parlais très précédemment de Fos-sur-Mer, qui est en National 3, ainsi que l'Olympique de Marseille. Fos-sur-Mer n'est pas une équipe réserve d'équipe professionnelle, ouais. Ce qui est notre cas. Donc, Lyon Duchère a perdu face à Fos-sur-Mer. Il faut le noter, parce que Lyon Duchère est la grosse équipe de cette...
c'était le leader.
Championnat, absolument. Et l'OM a battu Montpellier 2-0, donc... Nous, l'accession, elle est pratiquement pas impossible, mais c'est très compliqué. Mais enfin, peut-être Fos-sur-Mer va-t-il peut-être décrocher peut-être
une accession
en National 2. Ouais. Donc, voilà. On le leur souhaite de tout cœur. Voilà.
À signaler quand même qu'il y a eu une époque où quasiment tous les clubs de Ligue 1 avaient leur réserve en National 2, 4e division. Et maintenant, pratiquement tout le monde est en National 3. Parce que le niveau s'est quand même élevé. Comme tu as énormément de jeunes qui jouent dans les équipes de réserve pro, physiquement et au niveau de l'expérience et tout, la National 2, c'est costaud.
C'est énergivore au niveau mental et physique.
Tu le vois en Coupe de France, quand tu joues une équipe de N2, c'est pas commode, tu t'amuses pas. Et donc... ces équipes, la réserve de l'OM a fait une bonne saison. N'oublions pas que le but n'est pas de gagner des titres, le but est de faire sortir des jeunes pour qu'ils intègrent l'effectif pro, qui n'est pas toujours une évidence. Hein.
Petit coucou à l'équipe de Carnoux qui a malheureusement perdu contre Cécine. Il faut parler un peu d'eux et qui sont malheureusement derniers.
C'est plus compliqué évidemment pour cette
équipe. C'est un problème financier. Ils ont des pots de bilan en cours de. Voilà.
C'est pas une équipe réserve de club professionnel.
Mais bon, c'est une équipe de notre région, il faut en parler quand même. Voilà. Malgré qu'ils sont dans les problèmes.
Voilà, on peut également bourrisser, mais enfin, bon, on va pas développer évidemment cela. Voilà, simplement, pour l'OM, c'est Sidi Ali, le capitaine de la National 3, qui a marqué un doublé, me semble-t-il. Ouais, c'est cela. Et qui se conforte dans cette position d'attaquant de pointe. Mais c'est l'équipe réserve, évidemment, la progression continue pour ces joueurs-là.
Mais ce qui est un peu, pour expliquer un peu à nos auditeurs, ce qui est un peu compliqué, c'est que tu as les U17, les U19, tu as l'équipe de Youth League, qui est la Ligue des champions des jeunes, et tu as un championnat de réserve avec régulièrement des matchs contre des équipes pro, où tu fais jouer des jeunes. Ce qui fait que les équipes de National 3, souvent, tu as des effectifs très fluctuants. Là, par exemple, tu avais les matchs, tu as des joueurs qui sont internationaux U18 ou U19, Valero et les Chézé, qui étaient en équipe de France, donc pendant que la réserve, l'équipe jouait, donc les mecs, ils jouent pas, parce qu'ils sont en équipe de France. Et tu as des effectifs très tournants, quoi. Et donc, c'est un peu plus difficile que de stabiliser par rapport aux équipes. Tu parlais de Fos qui, on espère, va monter en National 2, parce qu'eux, ils ont un groupe, ils ont une équipe, ils jouent, ils ont un objectif qui était de monter. Et donc, ils n'ont pas comme l'entraîneur de la réserve qui va avoir 7-8 gars qui ne sont pas disponibles.
Ils peuvent s'appuyer sur... Voilà. On peut s'appuyer sur... Non pas s'appuyer sur un groupe, mais les autres équipes, évidemment, qui ne sont pas concernées en tant que réserve professionnelle.
Voilà, et quand tu avais ton équipe de Youth League, c'est-à-dire la Ligue des champions des jeunes, où on est quand même allé en 8e, hein, c'était quand même pas mal, tes gars, ils jouent le mercredi. Ils jouent, voilà. Et donc, ils ne peuvent pas jouer, parce qu'ils n'ont pas encore le truc de jouer deux, trois fois par semaine. Donc, ils ne jouent pas avec la réserve. Donc, ta réserve, il y a des mecs qui jouent, qui ne sont pas forcément les meilleurs. Et c'est des fois un peu compliqué à gérer, quoi. Okay. Voilà. Mais la réserve, c'est important parce qu'on l'a vu, on va en parler dans quelques secondes. Quand tu as des jeunes qui montent, ça fait quand même un sacré palier avec la Ligue 1. Et ta réserve, quand tu vois certains clubs français, quand tu as 5-6 joueurs, 7 joueurs sur ton banc qui sortent de la réserve, tu n'as pas eu besoin de les acheter.
Il est vrai que cette politique-là économique n'existe plus, mais on va y tendre à revenir à cela.
Voilà, parce qu'à un moment donné, tu as des titulaires qui des fois ne donnent pas satisfaction, sont blessés ou fatigués. Si tu peux t'appuyer sur des jeunes remplaçants qui sont pas loin, c'est une bonne chose. Ça te permet de faire un peu tourner, d'amener de la vie. Et c'est vrai que l'OM a eu ce problème de la difficulté, parce qu'il y a quand même un sacré palier, on l'a vu dimanche soir contre Nice.
On va en parler.
On va en parler, il y a un sacré palier entre la réserve et l'équipe 1.
Et les différentes équipes de jeunes, évidemment, qui peuvent se greffer un effectif pro.
Voilà, parce qu'on va en parler, mais on l'a vu sur le pénalty concédé, une erreur de jeunesse. Voilà.
Et oui.
Une bêtise, comme on dit, mais tu apprends.
Oui, qui va être évidemment commentée, que cela, ainsi que. Qu'une action similaire dont il a été victime et qui...
il a manqué de vis, on va dire.
Parlons de maladresse ou manque de vis.
Voilà, lui, il n'est pas tombé. Il a essayé de rester debout, il a voulu continuer. Alors que c'est Jonathan Clauss, un joueur qui a été international, qui est trentaine d'années, qui a expérimenté. Lui, il est tombé.
Dans l'ordre, justement, sur cette 31e journée. Alors, parler des différents résultats, évidemment... Mais ça nous a desservi pour la plupart, on ne peut pas parler que de nous.
Ouais.
Brest, évidemment, a fait match nul 3 partout face à Lens. Lyon a battu Auxerre 3-2 sur un match, vous pouvez en parler si j'imagine que tu as pu voir ce match-là. Alain, tu étais en déplacement et j'imagine que tu as vu pas mal de matchs également. Ensuite, tu as Angers, évidemment, qui s'en est pris 3 face au PSG à domicile. Ouais. Toulouse et Monaco ont fait 2 partout. Mais bon, ça ne nous a pas permis de rebondir sur la situation. Lorient et Strasbourg, vous pouvez me rappeler le score, peut-être. Il s'agissait malheureusement
3-2
de
pour
3-2
Strasbourg à Lorient.
Sur un match assez, justement, difficile à interpréter. Lorient n'a pas démérité. Malheureusement, Strasbourg a pas forcément mérité, mais a remporté cette victoire.
Après, je peux dire que quand même l'équipe de réserve qui a mis l'entraîneur Lançois, comment il s'appelle déjà, j'ai un un trou de
sage,
mémoire. Sage,
Sage,
sage. Ouais. Après, il a fait rentrer tous les titulaires.
Et
ils ont réussi à faire match nul. C'est formidable. C'est une équipe que j'apprécie cette année.
Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu des matchs, à part le, qui nous ont été assez défavorables au niveau... À part Monaco, qui menait 2-0 à Toulouse et qui s'est fait remonter en fin de match. Parce que je ne sais pas trop, parce que celui-là, je ne l'ai pas vu. Mais il semblerait qu'ils se soient plus ou moins... Là, ils ont voulu jouer à la baballe, ils se sont fait avoir. Mais sinon, les équipes, Lille, qui va gagner au Paris FC...
Ben voilà, dans l'ordre chronologique, le Havre, à domicile, a perdu face à Metz. Quel match trépidant, que d'émotions.
Oui, oui.
Et une suspense jusqu'au bout, 4-1 pour Metz face au Havre.
Ouais.
Le Paris FC à domicile, malheureusement, on me dirait certains, et je suis assez d'accord avec cela, a perdu face à Lille 1-0. Match mérité, victoire méritée. Bon, on peut souligner un tir au but raté d'un ancien Burélois de chez nous.
Ivan Kebal.
Absolument. Malheureusement, un tir au but qui a été tiré sur le poteau.
Voilà.
Une égalisation du Paris FC nous aurait peut-être permis d'espérer encore.
Oui.
Rennes.
Espérons.
Ben là, on ne peut plus espérer grand-chose. Vous allez justement en débattre. Rennes qui a battu Nantes 2-1. Et pour Nantes, là, ça sent vraiment, c'est d'ailleurs la fin.
Oui, mais attention.
Je ne sais pas comment ils vont pouvoir s'en sortir du maintien.
Moi, je pense que quand même, c'est un OM Nantes, ça va permettre à certains Nantais de se vendre aussi.
Là,
donc,
c'était pour
c'est
Nantes.
Attention, attention.
Ah oui, oui, ça va pas. Parce que moi, j'ai vu, j'en parlais avec les copains dimanche soir au stade, en virage. Un copain qui avait regardé Rennes-Nantes. Alors, on a rigolé parce que le but de victoire de Rennes 2-1 dans les arrêts de jeu à la fin du match,
c'est Rongier
sur une frappe du gauche. Rongier du gauche, ça fait rigoler, mais c'est comme ça. En tout cas, il a fait un bon match.
Fait sourire aux jeunes.
Il s'est battu, mais eux, ils se sont accrochés et les Nantais, ils se sont battus. Tiens, mais ils n'ont pas lâché. Et même s'ils sont, ils ont. 9 doigts de pied, 9 orteils en Ligue 2, ils s'accrochent.
Pour ne pas dire plus.
Ils savent que c'est l'Olympique de Marseille qui vient affaibli.
Voilà, et toi tu viens, et si toi tu es comme tu as fait à Lorient, ou tu es très mauvais, voilà, tu n'es pas à l'abri de perdre. Tu n'es pas à l'abri de perdre.
Ça sera donc la 34e journée, on n'est pas encore là, mais c'est pratiquement on est qu'à la 31e
journée. La 32e.
Non, mais pour le match face à Rennes que nous recevons, pour parler de ce match-là en référence, après leur victoire face à Nantes, 2-1, Nantes attend la fin des haricots total, et pour Rennes, j'ai peur qu'il nous passe devant, ce qui est déjà le cas.
Oui, mais avant de penser à Rennes, il faut penser à Nantes quand même.
Oui, non, mais le problème que tu as, c'est que il te reste 3 matchs, il faut gagner à Nantes, il faut gagner au Havre, il faut battre Rennes à la maison. Avant de penser à Rennes à la maison, mais c'est vrai qu'il y a les deux déplacements. Alors, Nantes.
Là, tu faisais aller une référence aux relégations en parlant
non,
de.
Non, non, à nous. Je parlais
de l'Olympique de Marseille. On pense tous à Rennes, mais c'est fini, Rennes. Si tu n'as pas de résultat contre Nantes et Le Havre. Mais vu le jeu que produit l'OM.
Tu as reçu Metz, qui est déjà en Ligue 2. Tu as gagné 3-1
difficilement.
En mettant le troisième dans les arrêts de jeu. Quoi. Et là, dimanche contre Nice, qui est le premier non relégable et non barragiste. Qui est une équipe en galère, tu t'en sors, tu
aurais mais pu, en galère, ils prennent Lens sur le prochain match, c'est pas tout gagné parce que Lens joue le coup.
Mais disons que c'est une. Donc, c'est toi. Si toi, tu n'es pas bon, les autres, ils ne vont pas te laisser te lâcher les points. Et on l'a vu à Lorient, où moi, ce qui m'a le plus choqué, c'était pas tellement tu perds, ça peut arriver, c'est que tu t'es pas battu et que Lorient n'a pas fait un grand match. Lorient, c'est une belle équipe. Moi, je les ai vus faire des bons matchs sur Ligue 1 Plus. Mais là, ils ont géré tranquille, quoi.
Ouais, mais ils étaient invaincus depuis combien de temps?
Oui, depuis septembre. Ils ont perdu leur premier match à la maison dimanche contre Strasbourg.
À notifier que la finale de la Coupe de France, c'est...
C'est Lens-Nice.
Et voilà.
Tu viens de le souligner.
Mais c'est le championnat et derrière.
Voilà.
Non, mais le truc, c'est que...
Ce match-là va être très important pour nous sur une éventuelle 7e place que nous pourrions...
Oui, parce que si Lens, qui sera sur le podium, Mais je ne pense pas qu'il rattrape Paris, ça me paraît impossible.
Non, c'est impossible.
Hein. C'est, voilà, ça me paraît impossible.
À moins que Paris ait la moitié de l'effectif blessé.
Oui, mais bon, je n'y crois pas.
Je ne souhaite pas, mais bon.
Voilà, donc Lens, ils seront en Ligue des Champions. Donc ça libère une place en Europa League, oui. Et le septième deviendra... se verra attribuer la Ligue Europa Conference.
L'anticipation du scénario à venir.
Voilà. Alors déjà qu'on avait du mal avec la quatrième place, maintenant on parle de conférence. Qui c'est qui va venir à l'Olympique de Marseille? Dites-moi.
Façon,
déjà, on peut dire qui va partir. La plupart des protagonistes, très probablement.
Mais j'ai lu que Pacquiao, déjà, il a reçu une offre.
Oui, mais enfin, ça, c'est des trucs de mercato, on verra. Ouais. Parce que le problème que tient, c'est que financièrement, la Ligue des Champions est une nécessité. Parce que tu as 50-60 millions de recettes. Voilà. Si tu sors des poules, tiens, Brest, il avait joué, ils étaient tombés en 16e, hein, un barrage, ils avaient pris 56 millions, c'est quand même intéressant. Donc tu es sur un truc qui est économique. Le problème, c'est que tu es à 4 points de Lille et Lyon, qui sont 3 et 4, et tu es à 3 points de Rennes, qui est 5, et toi, tu es 6.
Voilà la problématique mathématique.
Avec 3 matchs, donc 9 points à prendre. Il faut déjà que toi, tu prennes les 9 points, ce qui est loin d'être acquis, vu la manière dont tu joues. Et il faut que les autres, ils en lâchent. Alors certes, par exemple, Lyon va recevoir Rennes la prochaine journée. Oui. Il y a Lyon-Rennes à Lyon. Et Rennes vient au Vélodrome à la 34e journée. Et Lyon recevra Lens. Donc, tu peux dire, tiens, c'est compliqué.
Cette journée-là sera décisive
Et la 33e journée, il y a un Monaco-Lille.
Moi, je pense qu'ils vont se partager les points.
Voilà, en espérant. Mais je veux dire, toi, il faut que tu prennes tes 9 points pour espérer un miracle. Ouais. Parce qu'attention, la 4e place, c'est les barrages. Ça veut dire que début août, tu as deux matchs de barrage. Tu as le match de barrage et tu as le tour éliminatoire. Et sur les 5 dernières années, 4 fois, les équipes françaises se sont fait sortir. Hein.
Et tu sors chapeau 4,
je pense. À commencer par l'OM.
Hein.
Et tu sors chapeau 4.
4. Voilà. C'est le meilleur, le 4.
Voilà.
Mais comment y croire, hein.
le problème, c'est que ça t'oblige à commencer l'entraînement plus tôt, parce que tu joues début août, première semaine d'août, championnat reprend le 23 août. Donc ça t'oblige, et pour ton recrutement, tu ne sais pas si tu seras en Ligue des Champions ou pas.
Oui.
Parce que si tu es éliminé, tu te retrouves en Europa League.
Et certains joueurs ont déjà fait leur choix. Hein.
Alors tu as des joueurs qui, si tu n'es pas en Ligue des Champions, ils veulent partir. À l'OM, il y en a 2 ou 3. Et il y a des joueurs qui, si tu n'es pas en Ligue des Champions, ne voudront pas venir.
Ben, au-delà du fait que la qualification est obligatoire financièrement parlant, et pas que... Il est évident que là, la position que nous occupons actuellement, comment la pérenniser et retrouver une 4e place, déjà, ça semble non pas impossible, mais
très très difficile,
très très compliqué, voilà. Plus que cela.
Et parce que la principale raison, c'est qu'en dehors de dépendre des autres et de leurs résultats, parce que moi c'est vrai que Monaco-Lille, tu te dis un match nul serait bien, Lyon-Rennes, un match nul nous arrangerait, mais encore faut-il que toi, tu prennes les points. Parce que là, dimanche contre Nice, tu concèdes un match nul, tu perds 2 points, tu aurais pris les 2 points, tu étais à 1 point derrière Rennes. Là, tu es à 3, quoi. Voilà.
On va débriefer ce match.
Mais là, tu parles de Monaco-Lille, mais avant, il y a Lille-Le Havre.
Oui, mais Lille-Le Havre, bon... Lille à la maison, actuellement, je ne les vois pas perdre des points.
Sur la dynamique, Lille pourrait bien battre Monaco aussi, ce qui ne nous arrangerait pas. Hein.
Oui, mais après, le problème, c'est que, avant de regarder les résultats des autres, regarde-toi toi.
C'est commencer à gagner des matchs, nous.
Voilà.
Oui, voilà, bien parlé, Franck, là, je te reconnais. Là.
C'est, voilà. Non, mais... Parce que le problème, on va attaquer le match, hein. Le problème, il est dans la tête. Il est que tu as une équipe qui a lâché.
Ouais.
Et encore, dimanche soir contre Nice, les joueurs ont couru. Ils se sont battus. Ils ont joué. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient.
Voilà.
Ouais. Mais on va un peu... Après, dans 2 minutes, on critiquera...
À l'heure des charges, il est vrai qu'il y a eu un engagement certain.
Moi, je peux donner un conseil au président de l'Olympique de Marseille. Là. Ouais. Envisager de prendre un psychologue et un psychiatre, prendre quelques chambres à Édouard Toulouse, en psychiatrie. Et là, peut-être qu'on sera sauvé.
Non, mais
second temps, peut-être.
On en rigole, mais je lisais dans l'équipe la semaine dernière, que De Zerbi, qui est allé prendre Tottenham, qui est un club qui est relégable en Angleterre, il les a pris relégables, il a fait venir un psychologue pour vider les têtes et essayer
ça
de
se
faire...
Fait, hein. Tout à son honneur.
Quand tu regardes l'équipe, c'est pas mal, et tu regardes les résultats, Tottenham, ils ont gagné à peu près la même équipe, l'Europa League l'année dernière.
Oui,
donc c'est une équipe costaud. Alors, peut-être pas champion d'Angleterre, mais enfin, je veux dire...
N'exagérons pas non plus, mais retrouver relative confiance...
Les retrouver relégables, mais tu allais chercher un psy. Et à un moment donné, le problème que nous avons, à mon avis, à l'OM, c'est que ce n'est pas des méthodes d'adjudant-chef de carrière, je vais vous punir parce que, qui vont faire que l'équipe, elle se mette à jouer.
Mais c'est une punition qui a été annoncée du fait de les conserver à la commanderie au centre d'entraînement, doubler les entraînements,
quoi,
je trouve ça complètement débile, excusez-moi du terme.
Voilà, mais parce que dans la culture... Qu'en février, tu sois allé à Marbella une semaine, l'entraîneur venait d'arriver, il voulait connaître les joueurs.
Oui.
Ok,
d'accord. Là, on est d'accord.
Mais qu'après, parce que ça ne va pas, tu refais une semaine et derrière, tu perds à Lorient, c'est donc ça n'a pas marché, de les bloquer à la commanderie alors que les mecs, avec double entraînement et trois jours à la commanderie, à dormir à la commanderie, les mecs, ils ne voient pas leurs femmes et leurs gosses. C'est un moyen de s'évader aussi. Il faut soigner les têtes.
Et
ce qui a été fait était une erreur, comme à mon avis...
Tout sauf ça.
...ont été des erreurs, des déclarations intempestives, du genre... S'il y en a qui ne courent pas avec les salaires qu'ils gagnent, vas-y, mets-leur la cible dans le dos. Parce que moi, j'étais au stade dimanche, je suis abonné, je ne manque pas un match, sauf si je suis hospitalisé ou des trucs comme ça.
On n'en est pas là.
Mais
on en est
pas là, tu as quand même un problème. Tout à l'heure, on disait en parlant des féminines que le Vélodrome, c'est impressionnant. Mais quand tu rentres, on te donne la composition d'équipe, qu'il y a des joueurs qui sont hués par le stade, et l'entraîneur aussi, il s'est pris une bronca monumentale. Hein. Entraîneur à Bibay, ça sifflait de tous les côtés. Quelle est la réaction du joueur? Je pense à Pavard, je pense à Højbjerg. Encore Højbjerg, il est costaud, il a fait un bon match. Mais le mec, il se fait siffler avant le début du match par son public. Et ça, c'est compliqué. Et quand tu fais des déclarations, ils sont trop payés, ils ne se battent pas, ils ne sont pas sérieux, tu incites.
Alors,
ce
on
genre
peut parler
de
des déclarations qui auraient dû être « off », entre guillemets, avec les joueurs et les protagonistes du terrain, et non pas dans la presse, etc. Alors, Medina, moi, j'ai trouvé relativement intéressant son propos, mais bon, après, il ne faut pas focaliser sur certains joueurs, comme ça a été le cas, malheureusement. Et donner l'exemple, c'est une manière de dire les choses, mais après, c'est pas assez si simple
parce
de dire
que
cela.
Medina, le problème, c'est que quand tu dis qu'il y en a qui devraient être des leaders, qui ne font pas le boulot, et alors qu'ils sont champions du monde ou champions d'Europe, il y en a deux dans l'équipe champion du monde, parce qu'il y a Rulli, et je ne pense pas qu'il parlait de Rulli, et il y a Pavard, et champion d'Europe, il y a Emerson Palmieri, l'arrière gauche. C'est les seuls. Donc, je veux dire, tu peux m'expliquer, j'ai pas dit les noms, mais tout le monde sait faire 1+1=2. Voilà, des mecs qui sont internationaux et qui sont censés être des leaders et qui ne font pas le job, c'est Højbjerg et compagnie.
Mais de la part d'un joueur,
comprend, quoi.
On peut l'accepter, mais après, de la part d'un dirigeant ou de l'entraîneur, en l'occurrence, c'est un peu plus compliqué de communiquer en ce sens.
Voilà, parce que tu te demandes si tu as voulu te faire un bien voir de certains supporters.
Se dédouaner, très certainement.
Parce que je rappellerai deux choses qui, moi, m'ont choqué. La première, c'est que on a les joueurs, ils n'ont pas de trip, ils ne font pas le boulot, mais qui les a achetés? Qui les a choisis? C'est pas moi.
Arrêtez de vous jeter la pierre.
C'est pas moi. C'est M. Benatia, avec Longoria sur certains, mais c'est lui quand même.
Avec peut-être un M. De Zerbi aussi.
Avec
collaboration.
De Zerbi, mais enfin, bon, disons que
c'est... Mais c'était dans un projet cohérent.
C'est toi, tu as fait un choix. Quoi. Donc c'est toi qui les as choisis. Et quand il a dit ce qui est vrai, parce que sur le fond, ce qu'il a dit n'était pas faux, à Lorient, je parle. Quand il a dit, pour aller rentrer dans le vestiaire, regarder les bouteilles, elles n'ont pas été renversées, personne n'a renversé la table. Et au mois d'août, il y en a un qui a renversé la table. Ça a fini un coup de gifle avec Jonathan Rowe, c'est Rabiot.
Et voilà.
Et tu t'es apprécié.
Sa maman ne s'en est pas mêlée.
Je mettrai un bémol parce que là, ce samedi, là, j'étais à Bologne-Rome. Ouais. Et j'ai vu un commissaire de police qui est très ami avec Rowe. Oui. Il m'a dit que l'altercation était vraiment légère. Donc après, il y a sûrement une enflammade.
Non, hein, mais il y a eu, pour te répondre, Alain, il y a eu un truc, parce que à Rennes, les vestiaires, c'est du papier à cigarette, tout s'entend. Donc ça a gueulé, ça aurait été dans un autre stand, Vélodrome ou ailleurs. Les mecs n'entendent pas, là, les journalistes, un quart d'heure après à l'équipe TV, ils parlaient que de ça.
Non, mais il fallait vendre les joueurs, donc ils ont trouvé ce petit prétexte, ce scénario.
Donc, mais Rowe, il était prévu qu'il soit vendu. Bon, par contre, Rabiot, tout le monde a dit, quand tu l'as dégagé, tu l'as vendu 7 millions. C'est pas cher. Hein. Tu trouveras jamais avec 7 millions de quoi remplacer un mec du niveau.
Et ce joueur, il fallait le garder.
Voilà, c'était le mec qu'il fallait. Et d'ailleurs, tu as plein de cadres, Rouli, Hoiberg, entre autres et tout, qui t'ont dit, Aubameyang, qui t'ont dit, Rabiot a manqué toute la saison.
Alors, j'en reviens au propos de Médita que j'ai bien aimé. C'était, en substance, c'était le fait que reparler des propos de Rabiot juste avant qu'il s'en aille. Oui. Évidemment, il parlait du fait que ce ne sont pas investis de la plupart des joueurs. Du fait de vouloir jouer une Coupe d'Europe ou une Ligue des Champions. Donc, on n'est pas pris à ça et les joueurs n'y sont pas.
Ce que dit Franck, c'est que la saison dernière, Rabiot, il avait fait une sortie un peu au lance-flamme en disant, avant la fin du championnat,
absolument,
s'il y en a qui ne sont pas motivés pour aller pour chercher la qualif en Ligue des Champions, donc c'était l'année dernière, on a fini second, hein. Ben, ils ont qu'à changer de club parce que voilà, il faut y aller avec ceux qui veulent.
Voilà ce leitmotiv qu'on a perdu.
Voilà, et ça, c'était un leader de vestiaire qui dit ça, c'est dur, mais. Et donc, le problème, c'est que quand il y a eu une engueulade, parce qu'on rappelle que le match de Rennes, on perd. Tu fais 0-0 à Rennes, qui est une équipe qui joue une qualif européenne. C'est pas un mauvais résultat, première journée. Tu perds un point d'un but à la 90+2. Sur une faute de défense où tu es mal aligné, où le mec il arrive à cause d'un ballon perdu par Jonathan Rowe en l'occurrence, qui a voulu dribbler, qui s'est fait contrer, sur le compte tu prends un but. Donc Rouli en rentrant au vestiaire, il a gueulé. Il était fou de rage, tu prends un but. Voilà, et le ton est monté, mais c'est des choses qui arrivent tout le temps.
Absolument d'accord, mais pourquoi tout en blogué
Tout est parti parce que les médias en ont rajouté des tonnes, mais toi, tu aurais dû essayer de calmer le jeu. Alors, je veux bien entendre que la mère de Rabiot, elle a tout fait pour qu'il parte, hein, parce qu'elle a mis l'huile sur le feu, elle a attaqué tout le monde. Mais à un moment donné, quand tu analyses...
La finalité, tu as perdu ton meilleur joueur et ton véritable leader.
Je rappelle quand même qu'il y en avait qui avaient fait là aussi les débats, l'équipe, RMC, Rotten, Sans Flamme et compagnie. Toutes ces émissions, on ne parle que de foot. Dès qu'il y a un truc sur l'OM, on en fait des caisses. De Zerbi avait dit, si Rabiot, si s'excuse, il revient, j'attends que ça et tout. Donc il avait tendu la perche.
Le mal était fait.
Et le mec, il est parti et tu l'as payé parce qu'en catastrophe, tu as essayé de le remplacer. Le mec que tu avais pris 6 mois après, en janvier, tu l'as renvoyé à son club qui te l'avait prêté. Voilà, donc il a pas.
Un joueur irremplaçable.
Voilà, donc je veux dire, et donc tu as commis des erreurs. Et tu dis, il faut renverser la table, et le seul mec qui l'a fait, tu l'as viré.
Merci Patrick.
Voilà.
Comment reprocher cela dans la mesure où tu remets ça sur la table, justement, en disant, il faut renverser la table. Voilà. Il n'y a plus personne qui est capable de le faire à présent.
Oui, et puis ça, c'est le problème quand tu as pas mal de joueurs prêtés. Tu as des joueurs qui sont venus pour De Zerbi est parti. Il semblerait, et c'est relativement sûr, qu'une grande partie du vestiaire le regrette, parce qu'il s'entendait bien. Il avait des côtés un peu trop impulsifs, mais il était bien aimé quand même. Et donc,
totalement.
Donc ça te met un coup. Ce qu'il aurait fallu en remplaçant, et c'est là que peut-être le choix d'Habib Bey a été une erreur, à mon avis, je vais... donner mon avis, c'est que Habib Bey, il était à Rennes, et 10 jours après, il se retrouve à l'OM alors qu'il vient d'être viré de Rennes, parce qu'il était en conflit avec une partie de son vestiaire.
Entre autres.
Et puisque nos auditeurs se rappellent, il y a eu un problème avec Rennes pour faire venir ses adjoints qui n'avaient pas encore négocié les ruptures de contrat, donc ils n'ont pas pu venir. Donc ça faisait une semaine. Donc le mec, il a enchaîné, il n'a pas eu de recul pour récupérer, se calmer, réfléchir à ce qui s'était passé. Et il arrive dans un club en crise où il a essayé d'imposer ses méthodes et où visiblement ça ne marche pas.
On a bien compris cela. Il fallait rester dans une continuité, peut-être avec un entraîneur assistant pour les dernières journées.
Ou alors un spécialiste qu'on appelle. On connaît les Comboirier, les Puel. À l'époque, c'était le regretté Roland Courbis.
Avec du recul, absolument.
Jean-Louis Gassier, des mecs comme ça, qui était un mec qui vient, qui calme, qui nettoie les têtes. Ce que Antoine Comboirier a très bien fait au Paris Football Club.
Il continue absolument.
Ils ont subi dimanche contre Lille leur première défaite depuis 2 mois et demi. Quoi.
Après, c'est pas forcément que Comboirier venait.
Non, pas à l'OM, parce qu'il avait le
profil type.
Moi, j'y crois plus à ça.
Un mec expérimenté qui va calmer. Il y a 2 ans, Jean-Louis Gasset, sa venue. L'équipe était en grosse crise, il avait calmé, vidé les têtes, il avait fait de la calinothérapie. C'est pas forcément en cognant que tu vas rattraper les mecs.
Mis à part le fait qu'ils se décrédibilisent tout seuls, malheureusement.
Surtout certains joueurs qui sont très sensibles, les pauvres.
Oui, mais après, tu as un problème aujourd'hui qui est que le mec qui gueule, c'est Benatia. Et Benatia, on sait qu'en juin, il s'en va.
Ouais, mais moi,
il avait posé sa démission, lui a demandé de rester parce qu'il n'y avait plus des gueules.
Monsieur Benatia, il aurait dû partir d'entrée, et pas revenir. Voilà. Moi, je vous le dis.
Le problème, c'est
que. Ça, c'est abandonner le navire, mais là, il va couler quand même.
Le problème, d'après, et c'est très sérieux, tu avais un président, un entraîneur, un directeur sportif, si les trois s'en vont en même temps.
Il fallait que quelqu'un reste.
Voilà. Donc, l'idée de dire qu'il n'est pas mauvaise, c'est on a mis un président intérimaire, qui est un financier, il fait. Et le nouveau président, il commence le 2 juillet pour le protéger. C'est pas stupide. Tu sais que tu dois trouver un directeur sportif et un entraîneur pour la saison prochaine. Il aurait fallu trouver un gars qui te faisait la jointure en essayant de calmer, de remettre la paix dans le vestiaire.
C'était mon idée.
Voilà, c'était effectivement. Parce que là, et tu as voulu mettre un nouveau pour la saison prochaine et tout. Sauf que le mec.
Il se discrédite tout seul.
Il arrivait. Il n'a pas eu le temps de reposer, de se calmer, de faire un peu les trucs. Et ça se passe mal, et donc il est mort. Je ne vois pas comment Bayle pourrait rester. Il avait 2 missions, la Coupe de France. Et la troisième place.
Je suis d'accord avec toi, Patrick. Ils ont divulgué le contrat, donc on sait tout déjà.
Ouais,
donc,
on sait qu'il s'en va. Voilà. Parce que la Coupe de France.
On peut aussi attendre, évidemment.
On en parlait dimanche avec les collègues, parce que tout le monde a regardé la demi-finale Lens-Toulouse. Donc si tu sortais Toulouse en quart de finale, tu prenais Lens à Lens. Quand tu as vu le match, tu dis que ça n'aurait pas été une partie de plaisir.
Oui, mais c'est Dame Coupe de France.
Mais tu perds à Lens, qui est second, qui joue le titre avec PSG. Tu perds, mais tu perds chez toi contre Toulouse au tir au but, c'est un échec.
On ne va pas faire du...
Et en championnat, l'objectif troisième place, il est... mathématiquement encore faisable, mais il faudrait que les autres se plantent et que
plus
toi, tu gagnes tout. Voilà, c'est peu probable. Et donc, effectivement, et c'est un peu comme parce que moi, Abibé, j'aime bien l'homme.
Pareillement.
Ça a été un joueur de l'OM, c'était un très bon joueur, un bon capitaine.
Un bon consultant.
C'est un très bon consultant qui parle très bien.
C'est arrivé au mauvais moment.
Non, mais ce qui le dessert, parce que c'est vrai que les gens gardaient l'image du mec qui analyse les matchs. Et moi, je l'avais regardé le match contre Lorient il y a 10 jours. Tu vois, il est interviewé avant le match sur Ligue 1 Plus. Alors, il y avait Pantaloni, l'entraîneur de Lorient, qui ne fait pas de vague, mais qui est un bon entraîneur, costaud. Et tu avais lui, et il parle bien, il est brillant. Et il t'annonce un truc, et tu regardes le match, tu dis, mais c'est ton équipe, ça. Voilà, ce que tu as annoncé, les mecs ne le font pas.
Quoi. Exactement, voilà. Le sentiment que ça a produit.
Voilà, exactement. Et donc, il y a ce truc qui fait que les gens disent, ils parlent bien, mais sur le terrain, on ne voit pas la...
La communication est très bonne, mais en l'occurrence, il faut que les joueurs ils puissent l'éditer justement sur le terrain.
Voilà, et là, il a fait après le match. Moi, je l'ai vu en rentrant, mais je regardais BFM, quand ils font le débrief, je regardais la conférence de presse. Il attaque un joueur qui est rentré, Parce qu'il rentre deux mecs, il rentre des joueurs, il y en a, tu les as pas attaqués. Hein. Les deux gamins que tu fais rentrer, Kamisoko, son premier match.
Parlons justement de ce match, il nous reste un petit quart d'heure pour débriefer ce match. Oui. Patrick, oui. merci pour souligner la présence de ces joueurs qui ont fait ce qu'ils ont pu et qui n'ont pas démérité.
Et alors le coup malheureux, c'est qu'Emmadi, en venant défendre est ailier gauche, il est sorti sur Jonathan Clauss. Et il lui a mis une semelle.
Alors, je ne sais pas si on peut parler de semelle ou alors...
Je dirais
Jean Simon qui lui a un peu marché sur le pied.
Oui. Le problème, c'est que c'était dans la surface.
Malheureusement.
Et que l'arbitre, il a démontré le point de pénalty et que la faute, elle y est. Quoi. Alors, c'est une faute de jeunesse. Tu ne peux pas reprocher aux gamins de 19 ans d'avoir été, de s'être engagé, d'avoir voulu contrer.
Une question naïve, je vous laisse terminer. Jonathan Clauss était-il véritablement déséquilibré? Pouvait-il rester debout?
Pour avoir revu les images, il prend un bon coup.
Non.
Après, il en a rajouté. Et Tom, il est dans la surface.
C'est là
qu'il n'est pas idiot. Quoi.
Il y a la semelle, non?
Voilà, la semelle, elle y est.
Après, comme dit Patrick, il a l'expérience. Et voilà.
Il a laissé. Après, la semelle, ça fait mal. Quand tu prends un mec qui te marche sur le pied, ça fait mal. Mais après, il en a sûrement rajouté.
Comme on a vu une similitude deux minutes après dans les arrêts de jeu. En l'occurrence de notre joueur qui a été victime de cela.
Il est victime d'une faute et il ne tombe pas.
Et voilà.
Il essaie de rester debout, de continuer.
Oui, j'y vais, oui.
Et donc, c'est un manque de vis. Voilà, l'autre, il a été malin. Ils ont
pu changer le scénario du match.
Ouais. Ils ont un péno à la 88e, ils égalisent. Et le mec, il tombe. Hein,
à noter la belle palanca de...
Oui, de Wally, qui a été...
Ça t'a plu.
Non, je veux dire, il faut signaler qu'il est culotté de faire ça.
Oui.
Ouais, culotté sur beaucoup de choses.
Mais il a été très chambreur et
c'est
un peu inutile parce que moi sur Wally, je ne connais pas ce gamin. Mmh. Mais enfin, il était parti à Lens, il s'est planté. Lens, ils nous l'ont vendu chez nous, il s'est planté.
Et qui c'est qui l'a fait venir ce joueur? Voilà, c'est ça la question aussi.
Eh bien, hein, tiens.
Voilà.
Mais après, tu es arrivé à le
Vecinha, Wally.
Tu es arrivé à l'exfiltrer à Francfort. Où il est en échec, c'est pour ça qu'il le prête à Nice. S'il jouait, il n'aurait pas prêté.
Il était assez revanchard face à nous.
Le mec, il est revanchard, mais il est revanchard. Moi, je me rappelle un truc où tu lui as redonné 3 fois, 4 fois la chance et il était mauvais.
Oui.
Voilà. Alors peut-être qu'il avait visé trop d'entrée, mais après, c'est un garçon qui a des qualités.
Après, comme tu as dit, c'est peut-être un problème psychologique à l'OM.
Non, mais
sur cette situation-là, en l'occurrence, nous parlons
je pense qu'à l'OM...
Tu n'as pas droit à l'erreur à l'OM, voilà.
Voilà, à l'OM, c'est dur.
Avant, oui, tu pouvais, maintenant, tu ne peux plus.
Moi, je me rappelle d'une interview de Drogba, qui avait fait une interview sur Canal+, où il expliquait que quand il est venu Drogba, ce n'était pas lui qu'on attendait la vedette, c'était Mido, l'Égyptien. Hein. Lui, c'était un joueur de complément. Et il avait les premiers matchs, il n'était pas terrible. Et puis, il avait eu des réflexions sur les réseaux sociaux, il est Bido, il est quelconque, qu'est-ce qu'on a pris ce mec et tout.
Et après, Gengang,
il a dit, je vais leur montrer que... Et le mec, il a fait une saison fabuleuse.
Merci pour la connotation mentale, Alain.
Et tu as des garçons, et l'OM, on avait fait la saison derrière des paris. Il y avait Brassier aussi, Guilherme Brassier. Moi, je le voyais à Brest, un très bon défenseur central. Ouais. Et c'est un bon joueur, et à l'OM...
Quand ils arrivent des clubs comme Lorient, ils ne s'adaptent pas à Marseille. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas.
Mais après, tu es obligé
aussi, pareil, je veux dire.
Je reviens sur Guilherme Brassier, qui est un bon joueur. À Brest, il était très bon. Et puis alors, c'est vrai que de Zerbi, c'est les défenseurs centraux qui sont importants dans la relance. Le mec, chaque fois qu'il avait le ballon...
Malheureusement,
pieds,
sa maladresse était évidente.
Et tu l'as exfiltré comme Wally, qui s'était planté à Lens en Ligue des Champions et qui s'est planté à l'OM. Peut-être que c'était trop tôt pour le gamin, qu'il lui fallait un peu plus d'expérience, un peu plus de bouteille.
Voilà, mais ces erreurs de casting, évidemment, sont récurrentes, mais malheureusement, on va devoir
après,
faire avec.
Après, il n'empêche que le joueur, il n'est pas obligé de chambrer, de manquer de respect.
Voilà, pour revenir à Wally, c'était pas correct.
Tu parles avec les Argentins
Alors, il s'est chauffé avec Balerdi.
Parce que 3 contre 1, je veux dire, il a eu sa dose, quand même.
Oui, non, mais...
Je ne défends pas, mais
après,
bon.
Qui ne s'est pas chauffé avec Balerdi et Medina. Mais... Non, mais il s'est chauffé, même fait lui-même, d'après ce qu'il se dit, il n'était pas muet. Et ouais, quand il a réussi la Panenka, il est venu narguer le
stade. Avant cela, il y a eu un comportement, stade, voilà. Évidemment, au-delà et, de ça. Ouais,
et il a été...
Il aurait pu ça
tu,
en passer.
Tu peux, voilà, tu peux être plus correct, parce que, tout simplement, tu es un garçon intelligent et tu sais que si tu as échoué, c'est parce que tu n'y es pas arrivé. Voilà.
Très revanchard, résultat des courses.
Donc, que tu sois content et que tu fasses, que ce soit... comme là, on va jouer contre Rennes la dernière journée, tu auras Rongier, mais Rongier, c'est un vétéran, donc lui, il ne le fera pas.
Je reviens à cela, mais, tout va se jouer sur voilà, cette dernière confrontation.
Tu auras Lilian Brassier qui a échoué à l'OM.
Et encore revanchard, certainement.
Voilà, mais oui, mais le mec, il est pas. Enfin, il est revanchard, ça ne veut pas dire qu'il va venir.
Pas le même état d'esprit.
Il va venir chambrer le virage. Et
on est bien d'accord.
Non, mais commençons déjà par Nantes le 2 mai
oui.
à 15h.
Nantes le 2 mai.
Nantes, ils sont carrément relégués. Non, alors peut-être ils vont espérer. Évidemment, jouer leur va-tout, évidemment, faire leur maxi pour emporter ce match.
Non, ils vont faire le maximum pour se faire connaître des autres clubs. Voilà, c'est ça, c'est l'image qu'ils vont donner. Ils savent qu'ils sont condamnés. Mais donner une image contre l'Olympique de Marseille, si tu fais un 6 euros tourné, je vais te dire, les clubs, ils vont appeler les.
Voilà.
Même l'OM, ils vont peut-être le prendre, le joueur.
Pour reprendre ce que dit Alain. Quand une équipe est reléguée, tu as les joueurs qui n'ont qu'une envie. Parce qu'on rappelle que dans la charte des joueurs professionnels, une relégation, ça permet au club de te baisser ton salaire de 30%. Donc, ça fait plaisir à personne. Et déjà, tu regardes les foot mercato, tu vois que Monaco a fait une proposition pour Matisse Abine.
Ça peut vendre, qui est un bon joueur. Vendre plus facilement.
Et voilà, tu as plusieurs joueurs qui vont avoir des propositions.
Oui.
Donc, tu as le risque que les mecs qui veuillent briller... Avec l'inconvénient qu'ils en fassent trop, qu'ils jouent tout seuls pour leur gueule, pour se faire voir. Mais tu as ce risque, les mecs, ils ne vont pas lâcher le match. Quoi.
Mais qui ne veut pas briller face à nous,
voilà.
Surtout en fin de saison.
En plus.
Et les dirigeants de l'OM, peut-être qu'ils auront un œil sur un joueur de Nantes. Voilà,
oui, aussi. Oui, tu avais un œil sur le jeune défenseur central Tati, là, Tyler Tati. Qui a 18 ans, qui est un espoir. Tu as voulu, tu étais parmi les clubs, il y avait Paris FC, il y avait Monaco, et il y avait Rennes, je crois, sur Matisse Abline, l'attaquant.
Tu parlais de Rongier, il arrive de Nantes aussi.
Oui, Rongier, on l'avait pris de Nantes.
Et oui.
Mais voilà, et Merlin aussi. Mais
Merlin, oui.
Voilà, et donc, c'est, les mecs, ils ont envie de briller, donc ça va pas
Merlin,
être
Merlin, franchement, j'ai pas compris pourquoi il reste pas à l'Olympique de Marseille. J'ai pas compris, franchement.
Ben, c'est un joueur qui aurait pu rester, malheureusement. Ben, c'est une histoire financière également. Et
Ou peut-être qu'il avait pas le niveau, je sais pas.
Non, c'est un bon joueur, mais c'est un joueur
moi, j'aimais bien, moi.
Qu'on connaissait de l'équipe de France Espoir. Et qui a eu c'est un très bon contre-attaquant, mais défensivement, il avait des fois des lacunes et des.
Ouais, mais les jeunes.
Oui, c'était un joueur qui n'était pas vieux, donc il était une équipe de France Espoir. Hein. Et donc, ils ont espéré trouver quelqu'un de plus meilleur défenseur.
Bon, il nous reste trois matchs à disputer, évidemment. Et évidemment, on va être en phase de reconstruction. Hein,
j'aime bien samedi à 15h, ça me plaît, moi.
Oui, samedi 15h.
Comme ça, on pourra bien dormir la nuit.
Mais bon,
je ne suis pas sûr. Mais...
On va faire. Rappelons que le match devait avoir lieu vendredi soir, 1er mai.
C'est pas vrai, le jour de mon anniversaire, ils ont décalé. Non, si.
Ils t'ont fait honneur.
Et ils l'ont décalé parce que la préfecture a demandé à décaler le match. Parce que vu qu'il y a les manifs du 1er mai. À Nantes, comme partout.
Oui, c'est cela, oui.
Mais je ne savais pas que Nantes allait être le début de l'insurrection armée.
Oui, moi aussi.
Et de la nouvelle révolution.
Que se passe-t-il à Nantes le 1er mai ?
Du coup, le préfet, il a demandé pour pas que les flics y soient à la manif et après, ils doivent aller au stade.
Et est-ce que les supporters sont autorisés à faire le déplacement ?
Oui.
Alors là,
mais
je crains le pire.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de... Parce que j'ai parlé avec un gars dimanche soir, hein, que je ne connais pas bien, mais qu'un des potes avec qui je suis abonné connaît bien, c'est entre
non,
jeunes.
Non, on y sera là-bas.
Il était à Lorient, il te dit, tu as fait 2500 bornes aller-retour, 15 heures de quart, pour aller voir le match.
Mais les coutumiers du fait seront présents.
Non, voilà. Mais il y a des sections dans toute la France,
oui,
il y aura du monde pour l'OM.
Et puis mais...
il y aura le noyau de tous les groupes, hein, c'est obligé.
Donc maintenant, ce match-là, évidemment, à disputer, tu as parlé de Nantes, évidemment, mais déjà, on est déjà en phase de reconstruction totale, je pense. Peut-être que certains sont d'accord avec moi, je vais vous demander votre avis, il nous reste quelques instants à justement parler de... Allez, il nous faut un entraîneur, un directeur sportif...
Déjà, il faut parler des départs effectifs. Là.
Mais qui va rester ?
Voilà, déjà, moi, on parle déjà de Paixão, il veut retourner au Brésil.
Parce que partir, il y en a beaucoup vont partir.
Palmeiras, il donnerait 45 millions à l'OM,
oui,
il ne va pas dire
mais
non.
Ça, à présent,
Greenwood, n'en parlons
non,
pas.
Moi, je pense que Greenwood, il veut partir parce qu'il veut jouer la Ligue des Champions.
À la
Après, Greenwood, il a le problème, c'est qu'il est avec son histoire de violence conjugale, il est barré en Angleterre.
Oui.
Aucun club anglais ne le prendra. Il faut rappeler que De Zerbi a été embauché à Tottenham comme entraîneur après le licenciement de Frank, l'entraîneur danois qui était entraîneur à Tottenham. Il y a eu des réactions alors minoritaires, hein, marginales même, de supporters.
Il reste des grandes équipes en Europe, hein, quand même.
Il avait soutenu Greenwood en disant il a fait une connerie, mais bon, c'est la vie, moi, il joue, il est correct, voilà. Et on lui a ressorti ça. Parce qu'en Angleterre, il peut pas trouver un club.
Moi, j'ai entendu qu'il était annoncé à l'Atlético de Madrid pour remplacer Griezmann.
Mais beaucoup d'annonces, cela va de soi en ce moment.
Mais Griezmann s'arrête, donc c'est possible.
Mais Griezmann s'en va. Mais le problème, c'est que Griezmann, il court énormément. Et Greenwood, c'est pas sa qualité.
D'ailleurs, un joueur qui adore l'Olympique de Marseille, qu'on verra jamais.
Voilà, c'est pas le même profil de joueur.
Mais Greenwood, je pense que s'il a une bonne proposition, il partira.
Il partira.
Je pense qu'Hoiberg veut partir. On parle de la Juve, mais c'est une possibilité.
C'est une possibilité.
Parlons de ceux
qui
vont rester, parce qu'ils vont pratiquement tous partir.
Spalletti n'est pas trop chaud pour Hoiberg, mais bon, pour l'instant.
Ouais, mais bon. Par contre, le truc, c'est que va rester ceux qui ne trouveront pas.
Balerdi.
Ah, voilà.
Balerdi, je ne sais pas. Mais Balerdi, je pense qu'il va s'en aller.
Rulli.
Alors, Rulli, je ne sais pas. Mais le problème, c'est que tu as des joueurs, il faut qu'ils trouvent... Ils ont des contrats. Il faut qu'ils trouvent un club. Il faut que toi, tu récupères des ronds. Parce que comme tout le monde sait que tu as eu un problème, les clubs, quand ils vont venir te faire... On parlait de Mathis Sabline de Nantes. Nantes, ils en demandaient 40 millions l'année dernière. Là, les mecs, ils descendent dans Ligue 2. Le joueur, il a dit, je veux partir. Les clubs, Monaco, ils ont proposé 15 millions. Ils ne vont pas te dire 25.
Patrick, juste une chose.
Oui.
On a une présidente gestionnaire. D'ailleurs, on l'a pris certainement pour cela. Il nous faut un directeur sportif, évidemment, qui travaille en collaboration avec
l'entraîneur. Et il faut donc... Il y a des joueurs qui n'arriveront pas à dégager. Voilà,
après, pour les joueurs, on verra après.
Il y a des joueurs. Et c'est vrai que, par exemple, moi, j'ai vu le match dimanche contre Nice. Quand tu vois Vermeeren, tu te dis... Il a fait un match correct.
Oui, mais...
Tu te dis, pourquoi on ne l'a pas fait plus jouer? Parce que des fois, tu as fait jouer des gars qui n'ont pas fait grand-chose. Après, 20 millions, l'option d'achat au Red Bull Leipzig. 20 millions, c'est beaucoup. Et tu n'as pas forcément les moyens. Mais tu as des joueurs que tu ne garderas pas. Pavard, bon, merci d'être venu, bonsoir. Mais l'anglais, Nwaneri, ok. Mais après, il y a des joueurs que tu voudrais voir partir et que tu n'y arriveras pas. Et tu vas te retrouver avec un effectif.
Une gestion assez
derrière, je
délicate.
Pense que Wea et Medina vont rester.
J'espère que Wea restera. Ouais. Medina, moi, on trouverait un moyen de récupérer les 18 millions qu'on a achetés.
Moi aussi.
On parle bien de gestion financière, tout à fait.
Il fait un peu trop...
Non, moi, il ne me plaît pas trop, ce joueur.
D'accord.
C'est un joueur intéressant. Le problème, c'est qu'il est trop cherche merde.
Au-delà de la foot, 3 points à Lorient peut-être.
Voilà,
avec son carton jaune.
Il prend des cartons, il est chambreur, il est là il s'est pris un carton parce qu'il s'est chauffé avec Wai. Alors ils se connaissaient à Lens, ils ont fait une saison ensemble. Oui. Il y a peut-être un contentieux.
D'accord.
On parle d'un joueur de notre niveau, hein. Moi je parlais au stade, je parlais de Gabi Ainsé. Ainsé, c'était une tueur à gage. Mais Ainsé...
Respectable et respecté.
Il était rugueux, mais il ne faisait pas le con.
Entraîneur, il y aurait Galtier. Mais bon, je ne sais pas s'il va venir dans ces conditions-là.
C'est Dimeco qui a lancé le truc. Galtier, oui, je pense qu'il a pris des ronds au Qatar, où il a entraîné au Qatar, il a pris des ronds à Paris.
Il y a ça aussi. Il peut y avoir des joueurs du Moyen-Orient qui reviennent en Europe, vu l'état des lieux là-bas.
Avec la guerre.
Probablement. Mais c'est vrai qu'on aura le temps de parler de cela.
Ton problème, il faudra un entraîneur, un directeur sportif qui travaille ensemble, qui essaie de vendre. Voilà. Ça va être compliqué. Parce que, attention, Stéphane Richard, c'est un gestionnaire.
C'est de cela dont
c'est
je parle.
C'est quand même un mec qui a été chef de cabinet du ministre des Finances. Et puis pas n'importe qui. Christine Lagarde, qui a été 10 ans patron du FMI.
Il aime les oranges.
Voilà, mais oui, puisqu'il était le 11e PDG d'Orange.
Qui va remplacer Orange? Moi, j'aimerais bien Ricard.
Voilà. Pour le naming, on attendra un peu plus tard.
On verra. C'est pas d'actualité. Ça m'étonnerait que ce soit Ricard. D'ailleurs, légalement, ils n'ont pas le droit parce que la loi est 20.
Ricardo, comme ça, on est bien.
Une marque d'alcool. Mais tu ne peux pas. Mais donc, il va falloir trouver, parce qu'il va falloir reconstruire, parce que tu as investi en ruine. Et on verra.
Voilà, donc commençons par le début. Voilà. Il reste 3 matchs à jouer. Et là, on saura où on en est. Véritablement, voilà. Nous le sommes déjà. On n'est pas dans une situation bienfaisante. Et oui. Là, évidemment, pour...
Et on remercie les auditeurs de Fréquence Mistral Marseille. On vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, où j'espère qu'on débriefera une victoire en Nantes.
Je ne dirai pas mieux, je n'en dirai pas plus.
Voilà. Au revoir.